Dans les notes d'un moine du mont Athos qui est mort le 25 septembre 38, qui s'appelait Silwan, un passage qui est, je crois, une réponse à ce que vous dites. Il nous dit « La grâce nous pénètre en commençant par les régions les plus élevées, celles qui sont le plus près de Dieu. Lorsque nous sommes en prière, dans la mesure où notre tout notre être est lancé vers Dieu, la fine pointe de cette rencontre, c'est notre esprit. Et c'est le point de rencontre de la grâce avec nous à ce moment-là. L'esprit humain rencontre l'esprit divin et il commence à être transformé. Cette terminologie d'esprit humain et d'esprit divin, nous ne la trouvons pas dans Saint Paul, qui parle de l'esprit en général, mais c'est une terminologie de l'Ancien Testament. Le roi, qui est l'esprit divin, qui rencontre le néphèche, qui est l'esprit de l'homme en lui. Et il dit, dans la mesure où nous restons en prière, où cette présence divine nous pénètre de plus en plus, et où nous commençons à penser et à vivre selon les termes de l'Écriture, une nouvelle région commence à être pénétrée de cette présence divine. C'est la région de notre intellect, de nos sentiments, de notre volonté. Et lorsque cette région qui est, disons, toute la région psychologique de l'homme se trouve de plus en plus pénétrée, cette expérience, cette rencontre divine ruisselle, si l'on peut dire, encore, et enfin atteint notre corps. Et il dit qu'il y a là trois degrés de notre communion à la grâce de Dieu. Une première rencontre, là où seulement nous pouvons le rencontrer dans un acte de l'esprit, et dans la mesure où cet acte de l'esprit est ensuite continué volontairement par nous, par un baptême, par une immersion de toutes nos puissances morales et physiques dans la volonté de Dieu, elle nous atteint de plus en plus. Et lorsque nous disons que nous ne connaissons pas la grâce dans son aspect physique ou dans son aspect psychologique, je ne suis pas sûr que nous disons toujours la vérité. Parce qu'il y a dans la vie de chacun de nous des moments où nous percevons, quelquefois pour un instant, le fait que physiquement quelque chose nous est arrivé. L'exemple de Siméon, évidemment, est extrêmement précis et intense. Mais c'est vrai aussi, je crois, pour les pécheurs. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut nous rendre compte de quelque chose qui me frappe de plus en plus au cours des années. C'est que ceux d'entre nous qui sont nés chrétiens, qui ont été chrétiens toute leur vie, sont souvent incapables, pendant un très long temps, de reconnaître les effets humbles, simples, à peine perceptibles de la présence divine, parce qu'ils les ont toujours ressentis. De même que dans une famille où les enfants sont heureux, ils trouvent cela tout naturel. Ils ne considèrent pas que d'être aimé, d'avoir chaud, d'être nourri, d'être vêtu, est un miracle. Ceux qui sont venus à la foi tard, non seulement ceux qui sont venus du dehors, mais ceux qui ont été baptisés dans leur enfance et ne s'en sont plus jamais souvenus jusqu'à un moment quelconque, très souvent découvrent la chose et peuvent vous dire, il y a là un événement concret et précis. Lorsque j'ai reçu la communion pour la première fois, j'ai découvert ceci et cela. Et j'ai dans la mémoire deux personnes sur deux plans différents. Il y a déjà beaucoup d'années, à peu près 30 ans, une femme qui n'était pas baptisée, au cours d'une conversation, m'a dit que elle ne pouvait pas accepter le baptême. parce qu'il y avait tant de problèmes qui étaient là comme une barrière entre elle et la décision qu'elle devait prendre. Comment pouvait-elle prendre cette décision avant d'avoir résolu tous ces problèmes? Et je lui ai dit que je ne pensais pas qu'elle pourrait jamais les résoudre du dehors. On ne découvre pas la beauté d'une pièce de musique en entendant parler. Vous ne pouvez pas découvrir certaines choses autrement que en les expérimentant. Et après un certain temps, elle a été baptisée. Et elle m'a dit après que ce que j'avais dit était vrai, que d'un certain point de vue, les questions n'étaient pas résolues, mais ils n'étaient plus des problèmes infranchissables. C'était des questions qui trouveraient leur solution avec le temps, de même que tant d'autres questions dans la vie se trouvent résolues graduellement. Voilà un exemple. Le second exemple auquel je pense, c'est celui que j'ai peut-être déjà cité, et je m'en excuse alors, d'une jeune femme qui ne croyait pas en Dieu, et je passe beaucoup de détails, et qui pourtant m'a dit ne pas pouvoir vivre s'il ne trouve pas Dieu. Et je lui ai dit, après beaucoup de temps et de recherche ensemble, voyez, l'expérience vous a montré que ni le prêtre, et je n'étais pas le seul, ni la communauté chrétienne, ni les livres que vous avez lus, ni vos propres réflexions, ni l'expérience de la vie que vous avez, ne vous ont permis de trouver votre chemin. Eh bien, allez à Dieu lui-même et dites-lui, tous ceux qui auraient dû être pour moi un lien entre toi et moi m'ont failli. Donne-moi une réponse toi-même. Et je lui ai dit d'aller communier avec cette question. Et je me rappelle qu'après cette communion, je suis parti en France et elle m'a envoyé une note où elle me disait, je ne sais pas encore si Dieu existe, mais je sais que je n'ai pas communié à du pain et du vin, mais au Christ lui-même. Eh bien, voilà une expérience directe qui n'était pas celle d'une sainte, mais quelque chose de simple et net, parce que c'est venu dans une situation qui n'était pas une vieille habitude que l'on continue à traîner derrière soi. Je crois que c'est là votre question.
J'aimerais que vous me donniez un éclaircissement sur un point que vous avez traité à propos de la nature de la grâce. Vous aviez dit donc que les théologiens du 14e siècle ont pensé que la grâce était un don de Dieu. Et si cette grâce, comme vous avez dit au début, peut être assimilée à l'Esprit Saint, si nous avons l'Esprit Saint, il nous donne la connaissance de Dieu. Il nous parle de Dieu. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a une différence?
Il y a une différence que je ne suis pas sûr de savoir vous faire saisir. L'Esprit Saint est une personne. Et la rencontre avec cette personne est une rencontre personnelle. Cette personne est une relation avec nous. Toute relation avec Dieu comporte des transformations en nous. Mais la grâce est quelque chose de différent en ce sens qu'elle est, si, pour employer ce terme qui est, et je crois de Grégoire, qui est un débordement de l'être, de la vie divine tout entière. Ce n'est pas le Christ, ce n'est pas le Père, ce n'est pas l'Esprit pris individuellement. C'est toute la vie, toute la complexité, toute la richesse de la vie divine qui s'épanche, qui ruisselle jusqu'à nous, qui nous est transmise dans le Christ et par l'Esprit, qui établit une relation quelquefois particulière entre le croyant et le Christ, le croyant et le Père, le croyant et l'Esprit. Mais ce n'est pas un événement qui est un événement de relation personnelle avec une personne ou l'autre personne.
Tout à l'heure, quand Jean vous a posé une question, dans votre réponse, vous avez fait allusion qu'on pouvait ressentir la grâce au point de vue psychologique. Mais là, ne faut-il pas se méfier terriblement de ce qu'on peut prendre pour les effets de la grâce, qui ne sont que purs fantasmes, n'est-ce pas, de notre part? Parce que il me semble que la fausse mystique soit un fléau extrêmement répandu. Alors, comment délimiter ce qui est vraie grâce et ce qui est pure imagination de notre part?
Eh bien, je crois qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est la méfiance systématique. Et le second, c'est l'arrogance systématique. Je crois que si tout ce qui se passe en moi, je le prends pour un miracle divin, pour une grâce, pour une expérience mystique, j'ai des chances de me tromper souvent. Mais il y a aussi un autre danger, c'est de nier par fausse modestie, par fausse humilité, quelque chose qui est vrai aussi. Et là, il y a un certain nombre de signes, si vous voulez, que l'on peut, dont on peut tenir compte. D'abord, il y a le fait qu'une expérience intérieure peut très légitimement être contrôlée par l'échange que nous avons entre personnes humaines, avec quelqu'un de plus expérimenté que nous. Ceci est important, parce que toute expérience authentique est universelle. Quelque chose qui nous est absolument particulier est ordinairement faux. Je ne veux pas dire que nous réagissons tous de la même façon aux mêmes incitations divines ou humaines. Mais il y a assez d'éléments communs pour que nous puissions dire ceci est authentique parce que c'est vrai dans la totalité de l'Église, si vous voulez. Voilà un premier point. Le second point est le suivant. Vous rappelez dans l'Épître aux Galates et ailleurs, ce que saint Paul dit des fruits de l'esprit, ils sont joie, ils sont vérité, ils sont lumière, ils sont humilité, ils sont ci et cela. J'ai beaucoup de peine à citer l'Écriture sainte en français parce que je n'ai pas l'habitude de la lire en français, mais je pense que vous en avez assez d'expérience pour savoir ce dont je parle. Eh bien, si une expérience donnée porte ces fruits-là, elle est authentique. Si elle ne les porte pas, elle ne l'est pas. Encore autre chose. Théophane le Reclus nous dit, qu'est-ce que c'est que la prière dont nous pouvons dire « j'ai vraiment bien prié aujourd'hui » ? Eh bien, il dit, que la prière dont je peux dire cela n'est pas la prière pendant laquelle je me suis senti ému, pendant laquelle j'ai pleuré, la prière que je ne voulais pas abandonner et que j'aurais voulu continuer jusqu'à, etc. La vraie prière, dit-il, c'est très simple. Si tu es interrompu au cours de ta prière et que tu te tournes avec joie vers celui qui t'a interrompu, parce que la prière t'a enseigné la charité, c'est vrai. Lorsque on t'interrompt dans la prière, tu dis, « Ah, mais tu ne pouvais pas attendre un moment, je suis en train de prier. » Non. La seconde chose, c'est que lorsque tu as prié vraiment et qu'il y a eu une rencontre avec Dieu, complètement imperceptible peut-être, mais une rencontre tout de même, à part cette attitude de charité, elle porte comme fruit la détermination de servir Dieu en toute fidélité, quoi qu'il t'en coûte. Tandis que la prière qui te donne un sentiment de délectation et d'euphorie, et qui fait que tu tournes la clé de ta porte pour être sûr que personne ne te dérangera, et tu t'installes confortablement dans ton fauteuil ou sur ton lit, avec les jambes croisées, en te disant, pourvu que personne ne me dérange, parce que c'est tellement délicieux, eh bien, c'est quelque chose de plus douteux. Je ne veux pas dire du tout qu'il n'y a pas de joie et de délice dans la prière, mais, il y a aussi cela. Et la troisième chose, je crois, ou la quatrième, mais quelque chose qui est assez spécial tout de même, c'est l'importance que les ascètes et les mystiques orthodoxes attachent aux réactions corporelles. Le corps, dans la théorie ascétique de l'Église orthodoxe, n'est pas un moyen de produire de la prière. Mais c'est un critère objectif qui est très intéressant. Parce que tu peux fabriquer des émotions. Tu ne peux pas fabriquer des états physiques. Et tu ne peux pas t'empêcher d'être dans un état physique quelconque. Si, au cours de la prière, de ta méditation, de ta lecture, d'une rencontre avec quelqu'un, ton cœur se met à battre, ou quelque chose se passe en toi, tu n'y peux rien. Et c'est pour ça que les pères du 11e au 14e siècle, qui ont beaucoup écrit à ce sujet, mais aussi d'autres écrivains, ceux du désert, insistaient tellement sur le devoir que les novices, les gens de peu d'expérience, ont de décrire exactement à leur guide spirituel ce qui se passe physiquement en eux. Parce que tu peux lui raconter ce que tu veux sur le plan psychologique. Tu peux, avec l'honnêteté la plus grande, lui décrire les choses avec imprécision, parce que tu n'es pas capable de voir ce qu'il y a en toi. Mais tu ne peux pas ne pas savoir ce qui se passe physiquement. Et c'est cela qui fait que les réactions physiques que nous avons, et nous les avons tous, sans aller du tout, sans être hésicaste, au cours de la prière, quand nous sommes à l'église, il y a des moments où ces réactions physiques sont très élémentaires. Je ne sens que mes jambes et c'est tout. Il y a d'autres moments où elles sont un peu plus élaborées. Je me sens tellement fatigué que je m'endors sur place. Mais il y a des moments aussi où elles sont positives. Je me sens de plus en plus vivant. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi et le sommeil est disparu, la fatigue est passée. Il y a des moments où nous disons « Ah, quelque chose se passe là ». Il y a des moments où nous ne le disons pas. Et tout cela peut servir d'une espèce de critériologie, d'une méthode de prospection, si vous voulez. C'est l'un des points extrêmement intéressants de la méthode hésicaste dans ses rapports au corps.
Lorsque ces signes deviennent de plus en plus objectifs, et ces signes dépassent ce que pourrait être une perturbation physiologique. De quelle façon il faut le voir, par exemple, pendant que je fais allusion au stigmate. Bien sûr, c'est quelque chose qui se passe dans l'Église catholique, je ne sais pas s'il y a eu des événements analogues dans l'Église orthodoxe, mais ça ne fait rien. C'est dans la même lignée, mais plus accusé. La différence est plus quantitative qu'autre chose.
Bien, les stigmates sont une question complexe dont je ne voudrais pas parler en détail, dont je suis prêt à parler une fois, séparément, comme d'un sujet séparé, parce que c'est un des sujets les plus intéressants de la mystique d'Occident. Mais il y a quelque chose qui est commun à l'expérience de tous les mystiques, qu'ils soient d'Occident ou d'Orient, qu'il soit chrétien ou qu'il ne le soit pas, ce sont les phénomènes d'extase, de ravissement. Eh bien, l'Orient chrétien a toujours insisté sur le fait que les phénomènes d'extase, de ravissement, de perte de contact et de conscience du monde extérieur en faveur d'un état mystiques sont la marque d'un état de prière élevé, mais ne sont pas la situation normale ou la situation la plus élevée. Je crois que c'est Isaac le Syrien qui a écrit à ce sujet un passage très intéressant. Il dit que les états d'extase marquent une spiritualité élevée. Mais, dit-il, l'homme normal, dont le type est le Christ, devrait pouvoir être en communion totale avec Dieu, en même temps que dans une situation complètement consciente du monde extérieur. Ce qui fait que il y a des phénomènes d'extase et des phénomènes de rupture d'équilibre, c'est qu'entre l'équilibre défectif où nous sommes, le pécheur qui est installé et qui est incapable de s'élancer vers Dieu, et le moment où nous pouvons être en Dieu et complètement équilibrés, il y a une période où nous nous arrachons à l'un sans pouvoir encore nous établir dans l'autre, où nous détachons de l'autre sans pouvoir nous rétablir dans l'un. Saint Macaire d'Égypte, par exemple, dans une de ses homélies, nous dit que l'expérience de Dieu a toujours lieu dans une situation de silence intérieur et d'oubli du monde qui nous entoure. Et ce n'est pas seulement l'expérience de Dieu, c'est toute expérience, tant soit peu profonde et violente. Ceux d'entre nous, je pense tous, nous savons qu'il y a des moments où nous oublions tout ce qui nous entoure parce que nous sommes si entièrement saisis de quelque chose qui se passe en nous. Ce peut être une lecture qui nous arrache au monde extérieur, ce peut être une émotion, ce peut être un souvenir, tout ce que vous voulez. Mais il y a toujours un retour à faire. Et c'est là une question de déséquilibre nécessaire que nous rencontrons sur notre route, mais qui n'est pas l'idéal à rechercher. Il y a un exemple aussi qui me semble très intéressant de ce point de vue, dans les mêmes écrits de Silouane, où il décrit sa prière d'intercession. Silouane était chargé des ateliers de son monastère au Mont Athos. Et d'autres chefs d'atelier lui ont demandé un jour comment il se faisait que les ouvriers dont il avait la charge travaillaient et que les ouvriers dont eux ils avaient la charge essayaient de ne rien faire, qu'ils étaient obligés de les surveiller comme des chiens de garde, tandis que lui leur donnait leur part de travail et se retirait dans sa cellule. Il a répondu, je ne sais pas, ce que je peux vous dire c'est ceci, je viens le matin et je les vois avec joie. Je leur donne leur travail et puis je me retire dans ma cellule et je commence à prier pour chacun d'eux. Et il décrit alors sa prière d'une façon tellement intéressante. Il dit, je commence à prier, par exemple, pour Nikita. Et je dis, mon Dieu, pense à Nikita. Il est jeune. Il a laissé dans son lointain village de Russie une femme de 20 ans et leur premier-né. Combien grande devait être leur misère pour qu'il abandonne cette jeune famille à laquelle il est tellement attaché pour venir travailler ici pendant un an et gagner le peu que nous pouvons lui payer. Et ensuite, dit-il, je commençais à prier pour lui, et pour l'enfant, et pour sa femme. Et à mesure que je priais de plus en plus, et que mon cœur se réchauffait de sympathie, de compassion, de charité, je sentais la présence de Dieu d'une façon croissante. J'avais l'impression que Dieu était de plus en plus intensément présent. Et à un certain moment, cette intensité de présence devenait telle qu'elle m'arrachait à la conscience du monde extérieur. Je ne pouvais plus me souvenir ni de Nikita ni de qui que ce soit parce que Dieu était tellement présent. Et alors je me trouvais emporté, comme il dit, dans les profondeurs de Dieu. Et soudain, dans cette profondeur de Dieu, je me trouvais face à face avec la compassion et la merci de Dieu. Et je me trouvais entraîné par cette compassion et cet amour de Dieu vers le monde auquel la présence de Dieu m'avait arraché. Dans cette compassion et cet amour divin, je retrouvais Nikita et sa femme et son enfant et leur misère. Mais alors, je pouvais les aimer d'un amour dont j'étais incapable moi-même. C'était l'amour de Dieu qui déferlait en moi, qui me ramenait comme sur la marée qui retourne vers le monde. Et alors, je recommençais à prier avec une intensité redoublée. Mais plus je priais, plus j'avais le sens des choses, plus la présence de Dieu devenait réelle. Et je me trouvais arraché de nouveau. Et de nouveau emporté jusqu'à ce que je retrouve au plus profond de mon expérience de Dieu, la charité, la compassion, la tendresse divine qui me ramenait de nouveau. Et voilà, c'est cela qui est cette espèce de circonvolution, cette danse, cette ronde qui nous arrache et nous ramène, nous arrache et nous ramène. Mais il y a toujours un moment où nous devons être arrachés si seulement nous devenons conscients de l'autre. Mais c'est vrai aussi quand nous le rencontrons. Si par exemple, nous sommes une compagnie de personnes qui causons en groupe, et si au cours de ma conversation avec celui qui est là, tout à coup, je me trouve à l'intérieur d'une rencontre, je ne me rends plus compte des autres. Je crois que c'est vrai pour chacun de nous. Et c'est ça qui se passe. Cet arrachement que nous trouvons tout naturel quand c'est un roman ou une personne ou une émotion et qui est étrange pour nous quand c'est Dieu. Évidemment parce que la situation est beaucoup plus intense et aiguë, mais aussi parce que nous sommes beaucoup moins habitués à la chose.
Quel est le péché originel en rapport avec la grâce? Et s'il y avait vraiment une chute, pourquoi Dieu a-t-il quand même gardé dans sa grâce? Dans quelle mesure il nous a gardé dans sa grâce après la chute? Et puis comment, à mesure que l'Église chrétienne s'est formée, quel est le rapport du chrétien avec Dieu, avec la grâce, avec le péché originel?
C'est toute une théologie. Eh bien, là, il y a une rupture nette entre la... Il y a l'homme créé en tant qu'être naturel, il y a un don divin qui est surnaturel sans être divin, qui est la grâce. Et ensuite, il y a Dieu. Et le schéma de ce qui se passe dans la chute, c'est que l'homme qui possédait cette grâce surnaturel, ayant failli à sa loyauté de Dieu, Dieu lui retire ce don. Il ne reste que l'homme dénudé. Cet homme dénudé ne peut se dépasser, parce qu'il ne pourrait se dépasser que par le don surnaturel qui lui a été retiré. Et là commence toute la conception de l'incarnation. Du point de vue orthodoxe, il n'y a pas cette élément intermédiaire qui serait une surnature. Il n'y a rien de surnaturel qui ne soit Dieu lui-même. Nous employons le terme de surnaturel, mais nous ne voulons pas dire quelque chose qui n'est ni la nature simple de l'homme, ni Dieu. Si bien que la chute est une rupture, une brisure, qui fait que l'homme est incapable de recevoir dans sa plénitude et de conserver ce qui lui est donné. La grâce, celle qui prévient, qui rencontre, qui appelle, qui provoque, est toujours là. Il n'y en a ni plus ni moins. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit saint Paul. Il y a là une surabondance de l'amour divin, de la charité divine, de l'intérêt divin, justement parce que c'est une situation misérable dont nous devons être tirés. Mais nous, nous devenons incapables de faire face à la chose. Et il y a toute une série de brisures. C'est un lieu commun, patristique, de dire que l'être déchu est semblable à un vase brisé ou à un miroir brisé. Un miroir brisé dont chaque fragment peut encore refléter quelque chose, mais ne reflète que le petit quelque chose qui correspond à ses dimensions. Ou bien le vase brisé dont chaque fragment peut contenir un peu d'eau, mais qui ne contient pas ce que l'amphore pouvait contenir à l'origine. Et l'œuvre du baptême est conçue comme une réintégration, c'est-à-dire comme le fait que l'intégrité est rendue. Ce vase se trouve refait. Et le don de la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit-Saint qui remplit ce vase d'une présence divine. Vous êtes le temple de l'Esprit-Saint. Si vous regardez la chute, eh bien, on peut dire que telle qu'elle se présente dans le récit de la Genèse, c'est un système de ruptures successives. Il y a une première rupture intérieure dans l'homme. Il y a une seconde rupture entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève. Et cette rupture a été définie d'une façon que je trouve tellement belle par saint Méthode d'Olympe, qui dit « Tant que l'amour divin les réunissait, ils se regardaient l'un l'autre et ils disaient « Lui ou elle est mon alter ego, mon autre moi-même ». Au moment où la rupture intérieure s'est faite parce que il s'est séparé de Dieu, chacun des membres de ce couple humain dit « Je suis égo » et voilà alter. « Je suis moi » voilà l'autre. Si bien que sur un premier plan, il y a une brisure. Séparé de Dieu, l'homme se trouve avec toutes ses facultés physiques et morales et intérieures comme un collier dont le fil s'est brisé. Toutes les perles sont là, mais ce n'est plus un collier. Une fois que cette disharmonie est là, une première rupture entre les deux membres du couple, une seconde rupture subséquente entre les deux et chacun d'une part et tout ce qui les entoure. Et c'est une série de brisures qui se poursuit, parce que l'Écriture nous dit que, dans un certain passage, que comme le péché augmenta, de même la mort prit de plus en plus possession du genre humain. Et en effet, vous pouvez voir, quelle que soit la signification des chiffres, mais c'est leur rapport qui est intéressant. Si vous prenez les chiffres de vie des patriarches, d'Adam jusqu'à Abraham, vous avez une courbe descendante comme cela, avec deux exceptions, Enoch et Méthusalem, dont l'un a vécu très peu et l'autre interminablement, pour la même raison, parce qu'ils étaient des amis de Dieu, et que de ce fait, Dieu a voulu l'un d'un côté et l'autre de l'autre, de la barrière. Mais c'est la même situation, cette longévité qui vient sur une courbe se placer comme cela, ou bien cette brièveté de vie qui vient rompre la courbe dans l'autre sens, est définie dans les deux cas par une relation particulière avec Dieu. Et de l'autre côté, la relation entre le monde créé et l'homme est intéressante aussi, parce qu'elle aussi se désintègre peu à peu à mesure que le mal devient de plus en plus, dans la mesure où il imprègne de plus en plus l'homme. Le jardin paradisiaque. L'homme peut manger de tous les fruits, mais il ne dépend pas pour son existence de ce qu'il mange. Il vit de la vie que Dieu lui a donnée, du souffle que Dieu a respiré, a soufflé, exhalé pour lui. Au moment de la chute, tu devras te nourrir de l'herbe des champs. Un pas de plus, le déluge, le retour de l'arche et de Noé sur la terre qui commence à reprendre forme. Dorénavant, vous pourrez vous nourrir des bêtes de la terre et des poissons de la mer et des oiseaux des cieux, mais vous serez une terreur pour eux. Un autre terme de désintégration. Et c'est cela aussi, je le dis en passant, qui explique en partie toute la sèse physique de la nourriture. Un effort de se dégager de ces dépendances qui sont des dépendances nées de la chute. Mais on ne peut pas s'en dégager comme ça. Parce que si vous voulez vous dégager de votre intégration à la poussière à laquelle vous revenez, vous devez d'abord vous intégrer à un autre monde qui vous nourrit. Si vous voulez, avant de cesser de vous nourrir du créé, il faut que vous appreniez à vivre de la parole de Dieu. Enfin, cela, c'est une remarque incidentelle. Mais c'est là que se trouve le problème du péché originel. Au fond, si vous demandez maintenant ce qu'est le péché originel, il y a des quantités d'explications. La désobéissance, et ci, et cela. Mais ce qui frappe dans ce texte, c'est qu'il y a là deux manières, deux voies de la connaissance. Tu peux tout connaître en Dieu. Et puis, il y a l'arbre de la connaissance. Tu peux connaître hors de Dieu. Seulement, en Dieu, tu peux connaître et rester vivant. Mais si tu essaies de voir les choses en dehors de Dieu, tu les vois dans leur néant. Tu les vois dans ce qu'elles ne sont pas. Tu les vois dans leur irréalité. Et à ce moment-là, se pencher hors de Dieu pour voir le monde qu'il a créé, c'est participer de nouveau dans une certaine partie au non-être qui est le hors de Dieu. Mais ceci est une des explications possibles. Il y en a d'autres. Mais je crois qu'elle elle est intéressante en ce sens qu'elle est adéquate à l'événement. L'homme pouvait atteindre à la connaissance totale de toute chose par sa communion à la pensée divine, mais pas autrement, sans périr. Et si vous prenez les choses comme je les expose maintenant, alors vous voyez que le commandement que Dieu a donné, tu ne mangeras pas des fruits de cet arbre, pas cette porte. Ce que autrement, ça a l'air d'être. C'est un avertissement. Tu peux voir le néant de l'existence, mais tu ne peux le voir qu'au risque d'être saisi dans l'engrenage. Et en effet, tu es saisi dans l'engrenage. Au moment où tu tombes hors de la plénitude relative où tu te trouvais. Et le pasteur Roland Curie, parlant de ce passage, dit que au moment où l'homme se détourne de Dieu, de fait, il n'a plus de créateur, parce que il s'est placé en dehors de cette relation du créateur et de celui qui est sa providence. Et il ne lui reste plus qu'à mourir, parce qu'on ne peut pas vivre en dehors.
Mais l'Église ne dit-elle pas que depuis la venue du Christ, par le baptême, nous sommes sauvés du péché originel. Or, nous voyons que notre nature est toujours différente de celle d'Adam. Pratiquement. Mmh. Dans quel sens est-ce que ça a changé ? Physiquement, ça n'a pas changé.
Il y a une chose dont nous devons nous souvenir toujours, c'est que, à la différence des anges qui sont une armée, les hommes sont une famille. Et que ce n'est qu'à la fin des temps, lorsque l'histoire sera, lorsque nous aurons un bilan total de l'histoire, de la destinée de chacun et de tous, que nous pourrons dire ce qui nous est arrivé. Parce que nous sommes comme les fils et les nœuds d'un filet. Il n'y a pas un fil qui casse sans que le filet ne se rompe. Il n'y a pas un nœud qui se détache sans que le filet ne soit endommagé. Et il n'y a jamais une situation où un individu est sauvé ou damné individuellement. Ça n'existe pas. Nous sommes tous solidaires, pas seulement sur le plan moral, mais sur tous les plans. Nous sommes physiquement solidaires. Nous sommes tous les enfants, les frères ou les parents les uns des autres. Lorsque je dis mes ancêtres, je remonte au premier homme et je me trouve être le frère, le cousin de chacun d'entre vous. Il n'y a pas de moyen d'éviter la chose. Et notre responsabilité mutuelle, notre situation mutuelle, au cours de toute l'histoire, est une situation de responsabilité qui fait que ce qui m'arrive porte fruit, mais pas dans la plénitude où cela arrivera plus tard, parce que il y a d'autres liens de responsabilité. Et quand je dis responsabilité, je ne veux pas dire une espèce de responsabilité légale, mais presque une responsabilité physique. Un nœud ou un fil qui est rompu. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Dans le baptême, un début de vie nous est donné, mais pas la vie. Une étincelle est allumée, ou une semence est déposée, mais cette semence doit pousser. Et si nous ne faisons rien pour cela, eh bien, en effet, rien ne se passe. On a demandé une fois à Saint Séraphin quelle différence il y avait entre les pécheurs qui périssaient et les saints qui étaient la gloire de Dieu. Et il a répondu, la seule différence, c'est la détermination que nous y mettons. Évidemment, nous pouvons être baptisés et garder notre baptême. Mais alors, nous tombons sous le coup de la parabole des talents. Le crime de celui qui a été condamné n'est pas de ne pas avoir gagné 10 talents alors qu'il en avait un. C'est le fait qu'il n'a rien voulu risquer. Il a pris son talent, l'a mis dans une serviette, l'a enterré, de façon à être sûr de le retrouver. Tandis que il fallait risquer de tout perdre pour tout gagner. Et quand nous sommes chrétiens et que nous nous disons voilà, je suis baptisé, je suis un membre pratiquant de mon église, ce peut être rien d'autre, ce peut n'être rien d'autre qu'une façon secrète de mettre de côté notre talent. Parce qu'il s'agit de devenir quelque chose, et pas simplement de rester d'une façon stable dans une situation qui nous a été donnée.
Permis de soutenir la thèse du salut par anticipation. Par exemple, on a expliqué ça d'une façon suivante. Il y a quelqu'un qui veut adopter un enfant. pour adopter cet enfant, il faut qu'il y ait un acte légal. Mais depuis quand cet homme devient le père de l'enfant? Depuis qu'il a voulu qu'il soit son enfant, ou du moment où l'acte légal sera déterminera? Alors, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes sauvés du péché originel, que nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est au moment de l'acte légal, c'est-à-dire de l'apocatastasis, qu'on va goûter cette plénitude? Et que maintenant nous sommes en quelque sorte sauvés par la foi, c'est-à-dire sauvés dans une espérance.
Je crois que le problème est de savoir, la question réside réellement dans la façon dont nous faisons usage du mot sauvé. Rien ne peut être ajouté à l'acte sauveur du Christ. De ce point de vue, nous sommes sauvés par la mort du Christ. De l'autre côté, ce salut qui nous est ouvert doit être reçu par nous dans un acte de liberté. De ce point de vue, nous sommes sauvés et en processus de salut. Et nous ne pouvons parler de sauver dans le sens de toutes choses sont accomplies et rien ne reste à faire que après le jugement dernier. C'est l'avantage du grec sur, disons, le français. Êtes-vous sauvé ou êtes-vous en voie de salut? Et je crois que voilà le point. Et de ce point de vue, l'eschatologie dont on aime parler maintenant est très caractéristique parce que le eschaton a un double sens. C'est quelque chose de décisif et c'est quelque chose de final. Du point de vue du décisif, la mort du Christ sur la croix, c'est l'eschatologie déjà réalisée. Le sacrifice offert une fois et pour toutes et auquel rien ne peut être ajouté. Du point de vue du final, il y a toute l'histoire. Parce que chaque être particulier doit entrer dans le salut. Parce qu'il y a cette liberté humaine.
Qu'un athée qui absolument s'est coupé de toute source liturgique, religieuse, par un refus volontaire, peut revenir à la grâce?
Sûrement. Je dirais sûrement. Parce que tant que, de toute façon, en tout cas, j'irai peut-être plus loin que ce que je dirais, mais enfin, tant que vous êtes vivant, tant que la mort ne vous a pas repris à la terre, tout peut avoir lieu. Ça dépend de vous et ça dépend des autres. Parce que l'athéisme de beaucoup n'est pas dirigé contre Dieu tel qu'il est, mais Dieu tel que nous, chrétiens, le présentons. Et il y a ce problème-là en route, si l'on peut dire. Mais tant qu'un être humain existe, il peut se faire qu'il rencontre Dieu, malgré nous, à côté de nous, au milieu de nous, d'une façon inconcevable. Parce qu'il y a une vieille thèse, qui est celle des pères de l'Antiquité, et qui a été exprimée par saint Thomas d'Aquin, qui dit que Dieu nous a promis sa grâce par les sacrements, mais il ne s'est pas interdit de donner sa grâce en dehors des sacrements. Les sacrements sont des moyens de donner, mais pas des moyens de ne pas donner. Je crois que c'est très important. Parce qu'autrement, vous pouvez être face à face avec un problème moral qui existe pour beaucoup. Tout espoir était permis avant l'Évangile. Maintenant que l'Évangile est venu, tant de millions de gens devraient rester sans espérance si c'est sur cela que nous étions jugés. Et pourtant, l'Évangile lui-même nous dit que tout blasphème contre le Fils de l'homme pourra être pardonné. Toute manifestation, toute affirmation peut être objet de malentendu. Sans pour cela qu'il y ait un acte de malhonnêteté ou de blasphème réel. Vous pouvez ne pas voir, vous pouvez ne pas comprendre, vous pouvez donner une fausse interprétation. Sur ce plan-là, tout peut arriver et tout peut changer. Saint Paul, qui a certainement été à Jérusalem lors de la Pâque, qui n'a pas été converti par la vie, par l'enseignement et la mort du Christ. Saint Paul qui, après la mort du Christ et les bruits qui couraient sur sa résurrection, a vu un danger nouveau et qui était là lorsque Étienne a été lapidé. Eh bien, ce même Saint Paul, qui, de ce point de vue, du point de vue de ce que nous voyons, n'avait vraiment aucune raison d'être, de rencontrer le Christ d'une façon aussi dramatique et d'être sauvé, eh bien, Saint Paul, le Christ le rencontre. Et il y a beaucoup de gens que le Christ rencontre d'une façon inattendue et de la façon la plus inattendue, non seulement dans le bien, mais dans le mal. Il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé un sens des choses au moment où ils sont tombés tellement bas qu'ils en ont été frappés eux-mêmes, sur le plan moral, par exemple. Je crois que tout espoir est permis, et c'est pour cela que jamais nous n'avons le droit de douter de qui que ce soit. Et nous n'avons jamais le droit de dire « Laissons-le de côté, il n'y a rien à faire. » J'étais très frappé il y a une dizaine d'années, le pasteur Niemöller est venu à Londres et a parlé du temps qu'il avait passé en Allemagne sous le régime hitlérien. Il nous a dit une chose que je n'ai pas comprise à ce moment-là et que je ne me pardonne jamais, c'est que je n'ai jamais pensé à Hitler et aux nazis en termes de salut. J'ai pensé toujours en termes d'ennemis, de gens contre lesquels il fallait protéger les croyants, des gens qu'il fallait vaincre. Et je n'ai jamais pensé qu'ils étaient les brebis perdues du royaume de Dieu. Et il a ajouté une chose dont je lui suis éternellement reconnaissant, il a dit, c'est l'erreur que l'Église russe n'a pas faite par rapport au communisme. Et lui a le droit de le dire, moi non. Mais lui a le droit de le dire parce qu'il a payé de sa personne assez pour pouvoir dire, j'aurais dû penser que c'était mes enfants et non pas des étrangers. Je crois que si nous pensons dans ces termes, nous ne devons jamais perdre l'espérance et nous ne devons jamais perdre le contact. C'est l'une des choses les plus criminelles que nous faisons aussi souvent. Nous nous enquistons ou bien nous essayons d'enquister les autres, d'être sûr que rien ne nous arrivera. Et au lieu d'être d'armée à la conquête du monde, nous devenons une espèce d'infirmerie où nous retranchons. Et dès qu'il y a un danger quelconque, nous disons « Seigneur, protège-nous » et nous n'entendons jamais le Seigneur nous dire « Mais vous êtes inscrit dans les rangs de l'armée, c'est à vous de combattre, ce n'est pas à moi. »
Je me demandais, je suis perçue à cette question, mais si je prends par exemple l'exemple d'un Eichmann, Eichmann, qui était donc condamné en Israël, qui avait fait... Moi, j'ai justement pensé à ce que vous dites. Je me suis demandé si, quand il est seul dans sa cellule, est-ce qu'il peut y avoir un revirement chez lui, mais est-ce qu'il pourrait, si ce revirement se produisait, est-ce qu'il ne deviendrait pas fou? Est-ce que je me sens quand on est allé jusqu'à un certain point dans le mal, est-ce qu'on peut revenir en arrière, justement?
Je crois que oui. Et je crois que ma raison de croire est l'expérience des prisons. Je suis aumônier de prison en Angleterre et j'ai affaire à d'autres aumôniers de prison. Et c'est une chose que vous rencontrez et qu'on a rencontré particulièrement, je pense, des cas concrets parmi les prisonniers condamnés à mort. Des gens qui avaient ce revirement et qui en arrivaient au point de dire « Cette condamnation à mort est juste, je l'accepte. » C'est un fait, simplement. Je ne peux donner aucune théorie de la chose, mais je suis certain d'un certain nombre de cas où c'est arrivé. Non pas de gens avec qui j'ai eu affaire, mais de gens dont certains chapelains anglais m'ont parlé, ou bien chapelains orthodoxes de France.
Oui, mais je pense à cet Eichmann qui a tué des millions de juifs et qui l'a fait consciemment, et c'est plus grave qu'un homme qui a, je sais pas, qui a tué sa maîtresse, mettons, qui est un acte passionnel. Il semble que c'est... ou un Hitler.
Oui. Je ne peux pas donner une réponse concrète sur Eichmann ou tel ou tel, mais je sais que ça a lieu et je pense que ce n'est pas le nombre ou la froideur de nos crimes. Il suffit que quelque chose se brise en nous. Et je pense que les choses se brisent en nous pour des raisons extraordinairement différentes de ce que nous attendons. Quelquefois, il suffit d'un instant où nous revenons de 30, de 40, de 50 ans en arrière et nous nous retrouvons dans notre enfance. Ou, pour une raison ou pour une autre, que ce soit une raison spirituelle ou une raison purement accidentelle, nous trouvons au-delà de l'époque sinistre, à l'époque où nous étions encore vivants. Et alors, tout peut avoir lieu. Je crois que il ne faut jamais perdre l'espérance, mais il faut aussi savoir que très très rarement vous pouvez convaincre quelqu'un dans cette situation de maintenant. Et si souvent, si seulement vous pouvez le ramener en arrière, avant le premier acte. Et cela non pas seulement pour des meurtriers ou des voleurs, mais pour chacun d'entre nous. Il y a des moments où nous avons une espèce de mort intérieure. Et nous pouvons renaître, si seulement nous pouvons ressaisir quelque chose qui appartient à notre passé, l'instant où nous étions intensément vivants. Et j'ai vu cela beaucoup avec les gens très âgés qui me disent « Il y a eu un temps où j'étais vivant, où je pensais, où je priais, je n'arrive plus à me retrouver. » Et très souvent, j'ai essayé de faire l'expérience, je dis « Bien, parlez-moi de votre enfance. » Et à un certain moment, la personne redevient vivante. Sur un autre plan, il y a cette histoire qui est prise, je crois, des pères du désert ou d'un florilège quelconque, de ce saint qui a fait un démon prisonnier. Je ne me rappelle pas les détails, mais le démon s'est trouvé... je crois que le florilège nous raconte qu'une nuit, un saint s'est trouvé réveillé par un bruit étrange, des gargouillements inhabituels. Il s'est levé et il a trouvé un diable qui était en train de prendre un bain dans sa cuvette. Alors, il a pris un crucifix qu'il avait et il l'a placé dessus. Et le diable s'est trouvé dans l'eau, pas moyen de sortir parce qu'il avait le crucifix. Ça, je ne vous le donne pas pour de l'histoire, mais c'est l'idée qui importe. Et ensuite, le diable dit, mais je t'en supplie, laisse-moi sortir, je ne peux pas rester là comme ça pour toujours. D'ailleurs, tu auras besoin de la cuvette. Il ne se fait rien. Tu resteras là tant que tu ne m'auras pas chanté l'hymne que tu chantais quand tu étais un ange. Mais dit le diable, je ne peux pas, je ne m'en souviens même pas. Eh bien, dit-il, je te laisse là. Et puis, chaque fois que je célébrerai un office, tu écouteras l'office et je te donnerai la bénédiction. Alors le diable lui dit, mais je t'en supplie, surtout ne fais pas un signe de croix sur moi, il n'y a rien de plus horrible pour moi. Et il dit, eh bien, essaie de chanter. En fin de compte, le diable commence, d'une voix rauque et horrible et gutturale, à chanter et à essayer de se souvenir d'abord des mots et puis de la mélodie. Il dit, non, ça ne va pas, continue ou je te bénis. Et comme ça, il passe toute une nuit, le diable a essayé de chanter, et le saint a le menacé de le bénir et a prié pour lui. Et en fin de compte, de mieux en mieux, le diable se souvient des mots, et puis la mélodie devient de plus en plus vraie. Et à un certain moment, le saint s'aperçoit que plus la mélodie devient vraie dans son ton et vrai dans ses mots, plus le diable semble perdre de sa noirceur et il commence à devenir de plus en plus vivant. Et en fin de compte, quand le diable tout à coup retrouve la vieille bonne mélodie des cieux et les mots, le saint le voit émerger de sa cuvette et s'envoler au ciel dans l'éclat de sa gloire première. Bien, je ne vous dis pas que c'est un fait d'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, des diables mineurs font la même chose. Et qu'on peut très bien arriver à rattraper le moment où nous n'étions pas encore un diable et essayer de rechanter la vieille mélodie jusqu'au moment où elle nous réveille, où elle réveille en nous ce qu'il y a de vrai.
Heureusement, le Christ n'a pas voulu le définir de façon très claire, heureusement pour nous, mais il l'a dit quand même.
Il l'a dit. Mais nous ne savons pas ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de définition. Il y a quantité d'explications qui sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres. Et c'est tout ce que nous pouvons dire. Mais il y a au moins une chose consolante, c'est que nous ne pouvons jamais dire à notre voisin, celui-là, je sais qu'il est damné, il a... Oh non, ce n'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Genre, ça n'arrive pas. Si nous disons, c'est moi, nous le disons en attendant que l'autre dise, mais non. Tandis que quand nous disons, c'est lui, nous n'attendons aucune réplique.
Est-ce qu'il y a la possibilité d'arriver à la grâce et à la connaissance de Dieu par une méthode, par un système de culture physique comme le yoga?
Vous ne pouvez pas arriver, je crois, à la connaissance de Dieu ou à la grâce par une méthode. Comme le dit, je ne sais plus lequel des pères spirituels, Dieu ne se laisse pas attraper dans les filets. Mais ce que vous pouvez faire par des méthodes psychologiques ou des méthodes physiques, c'est de faire le silence en vous et de vous rendre capable d'écouter, d'entendre, de prier, d'agir. Les méthodes du yoga, les méthodes hésicastes, tendent toutes à créer une forme vide dans laquelle une situation peut se placer. Mais ce n'est pas les exercices physiques, ce n'est pas la technique mentale qui vous permettra de le faire. Seulement, toutes ces techniques, quelles qu'elles soient, vous permettent d'arriver à un état où vous êtes physiquement dans un état de repos et de silence, et psychologiquement dans un état de silence et de repos. Et de l'intérieur de ce silence, vous pouvez commencer, par exemple, à prier, ou à penser, ou simplement à vous tenir dans la présence de Dieu. Mais les pères de l'Église insistent beaucoup sur le fait que c'est là l'intérêt de tous ces exercices physiques et psychologiques. Écarter tout ce qui est tumulte, tout ce qui est désordre, tout ce qui est agitation. Le mot ici, hia, veut dire quiétude, sérénité, paix, tranquillité, tout cet ensemble de choses. Le problème est différent si vous placez sur un point de vue, disons, hindouiste, où il n'y a pas un dieu personnel extérieur à vous. Là, le problème est différent. Il y a toute une situation différente du point de vue philosophique et du point de vue de la pensée métaphysique et religieuse. Mais du point de vue chrétien, vous ne pouvez pas contraindre Dieu. C'est là le grand principe même de la vie sacramentelle. C'est là l'une des choses essentielles dans l'épiclèse, dans notre prière au Saint-Esprit, viens et agis. Dieu reste souverainement libre, de même qu'il nous permet d'être souverainement libre. Et ceci est vrai pour la prière et pour tout. Nous pouvons nous placer dans la présence divine, nous ne pouvons pas le contraindre à se faire percevoir, à se faire connaître. Parce qu'autrement, il n'y aurait plus rien.
Alors, dans l'hindouisme, comment s'explique les phénomènes ?
Dans l'hindouisme, il n'y a pas de Dieu qui soit substantiellement différent de vous. Et par conséquent, ce que vous faites physiquement, ce que vous devenez physiquement, et psychologiquement, est une... excusez-moi. Je ne trouve pas le mot. Un espèce de dévoilement de toutes les possibilités divines en vous. Nous ne pouvons pas parler en nous de possibilités divines autrement que par un don de Dieu. Dans une conception hindouiste, vous pouvez parler de toutes les possibilités divines qu'il y a en vous. Et alors, évidemment, des exercices physiques ou psychologiques peuvent être un dévoilement, une ouverture de ces choses.
Et on peut penser dans cet aspect que... qui est bénéficiaire en Dieu, peut arriver à la grâce aussi, par ces
dévoilements. D'une façon objective, vous pouvez dire que toute personne humaine qui tend à Dieu peut rencontrer Dieu. Mais je dirais, ce n'est pas par les exercices physiques ou par la concentration psychologique. C'est en réponse à cet acte de désir, à cet acte de recherche, que Dieu peut venir. Mais ce n'est pas une méthode qui peut faire venir Dieu.
Non, c'est une gratuité.
C'est toujours une gratuité.
C'est un cadeau reçu par la poste.
Ce n'est pas par la poste en ce sens que c'est une gratuité, parce que Dieu répond... Mais ce n'est pas un cadeau reçu par la poste, parce que ce n'est pas quelque chose qui est différent de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'approche. C'est Dieu lui-même qui donne quelque chose de lui-même, pour que vous le connaissiez. Je crois que la parole de Pascal, tu ne me connaissais pas si tu ne me cherchais pas si tu ne me connaissais pas encore. est un grand principe